Cham HGSP.
Se forger un avis critique.
Avoir une réflexion.
Grandir et évoluer avec ses connaissances.
Connaître le monde.
Rester curieux.
L'art du débat.
Avec Cham HGSP.
Objet des travaux conclusifs. L'information à l'heure d'Internet. Jalon 1 vers une information fragmentée et horizontale. Par Ananis, Ninon et Candus.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de comment Internet a changé notre façon de s'informer.
Le problème, c'est qu'à ton époque, il y avait quoi ? 2 chaînes de télé ?
Elle est mignonne. Mais oui, dans les années 60, donc j'étais pas encore née, merci, il y avait effectivement que 2 chaînes de télé et puis bien sûr des journaux écrits.
Voilà, donc les informations, elles venaient de journalistes professionnels qui s'étaient renseignés sur les sujets, qui avaient vérifié leurs sources, etc. Alors que maintenant, sur Internet, n'importe qui peut écrire n'importe quoi.
C'est devenu extrêmement simple de produire une information. C'est à la portée de tout le monde. Il suffit d'un appareil photo et maintenant avec les portables, tout le monde en a un dans la poche et d'un réseau de diffusion. Et ça, depuis que les réseaux sociaux existent, il suffit d'un clic pour partager une information et n'importe qui peut faire le buzz avec n'importe quoi.
Avant, l'information venait surtout des États ou des grands médias. Maintenant, on la trouve partout. Réseaux sociaux, podcasts ou encore la télé. C'est plus rapide, plus libre et aussi parfois plus risqué. Mais comment Internet a-t-il changé notre manière de s'informer et quels sont les principaux risques et avantages d'une information plus libre ?
Avant, l'information était surtout contrôlée par les États ou les grands médias. On parle alors d'un contrôle vertical, car l'information, elle est du haut, les puissants, vers le bas, le peuple. Par exemple, dans les dictatures comme en Chine, où l'État censurait ce qu'on avait le droit de dire ou d'entendre. Même dans les démocraties, il y avait de la censure pendant les guerres. Par exemple, durant la Première et la Seconde Guerre mondiale, où on cachait des informations et les médias faisaient de la propagande. Mais l'information devient un peu plus libre à partir des années 60, avant la guerre du Vietnam. La télé montre la guerre en direct avec des images choquantes. C'est de là que certains commencent à critiquer le gouvernement.
Internet vient bouleverser le monde de l'information. Désormais, tout le monde peut publier un post, un article ou une vidéo. C'est ce qu'on appelle l'information horizontale. Elle ne vient plus d'en haut et elle circule partout. Tout le monde peut publier de l'information, journalistes, citoyens, influenceurs. Il y a désormais plus de sources, plus de points de vue, et l'information est plus rapide et mondiale. En 5 minutes, un fait local peut faire le tour du monde. Cependant, la censure n'a pas totalement disparu. Par exemple, en Chine, YouTube, Google et Twitter sont interdits. L'État surveille la population et crée son propre moteur de recherche, Baidu. Nous pouvons donc dire que la censure continue toujours dans certaines parties du monde, mais qu'elle s'adapte tout de même à Internet. Pour finir, tout cela a des conséquences. Certes, l'information est plus accessible, mais cette dernière comporte aussi des risques. Fake news, fact-checking ou encore des informations qui ne sont pas filtrées.
Pour conclure, de nos jours, nous vivons dans un monde plein d'informations, partout, tout le temps. Cela peut être un avantage, mais également un inconvénient. Il faut apprendre à vérifier, comparer, réfléchir et savoir qui est à l'origine de l'information pour en déterminer la fiabilité de la source.
Il y a quand même un certain nombre de choses que vous pouvez facilement vérifier, hein, surtout si l'info provient d'un site que vous ne connaissez pas et qui va vous pousser à faire quelques recherches. Donc, qui est à l'origine de l'information ? Est-ce que c'est quelqu'un de confiance ? Est-ce que sur la page de cette personne ou de cet organisme, il y a le badge compte certifié qui confirme que c'est bien la page officielle, hein ? Toi, par exemple, tu es bien Anne-Sophie Lapix, je te le confirme.
C'est une très bonne nouvelle. Donc, on regarde qui a produit l'information, à quelle date ? Est-ce que c'est une vieille info qui ressort, on ne sait pas pourquoi ? Est-ce qu'il y a des liens qui permettent de vérifier les éléments ? On recoupe les sources, etc. Pour résumer, puisque vous, qui nous regardez, vous avez maintenant avec les smartphones et Internet les outils pour produire et diffuser de l'information, eh ben, faites-le intelligent.
Et oui, les gens, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités.
On en revient toujours à Spider-Man.
Coïncidence ? Je ne crois pas.
Objet de travail conclusif, l'information à l'heure d'Internet. Jalon 2, témoignages et lanceurs d'alerte, présenté par Charlotte, Lilou et Mélissa.
Snowden, Assange, Manning, ces trois célèbres lanceurs d'alerte ont été immortalisés pour leur courage en mai 2015. Depuis, cette œuvre d'art a fait le tour de l'Europe, invitant les citoyens à oser s'exprimer. Pour certains, ces lanceurs d'alerte sont des héros, pour d'autres, notamment aux États-Unis, ce sont des traîtres.
Aujourd'hui, on voit l'apparition de plus en plus de lanceurs d'alerte pour de divers sujets, écologie, politique, guerre, culturelle, etc.
Mais qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte et quel est son but ?
Un lanceur d'alerte est une personne ayant pour but de dénoncer un risque, un scandale ou bien un danger dont il a connaissance, pouvant mettre en péril une société. Il lance donc un signal d'alarme. Mais attention, ce ne sont pas des délateurs. En effet, un délateur agit par intermédiaire d'Internet, tandis que le lanceur d'alerte fait pour la société. Le lanceur d'alerte a donc obligation de faire de nombreuses recherches et de trouver des informations fiables Il se doit de ne pas diffuser de fake news.
Un lanceur peut être considéré par certains comme un héros et pour d'autres comme un traître. En effet, ils sont même parfois protégés par la justice ou bien peuvent servir à la contrer selon la cause défendue. On peut se demander les enjeux actuels et l'importance au sein d'une société des lanceurs d'alerte.
Mais alors déjà, comment font-ils pour lancer l'alerte ?
Ils diffusent leur alerte à travers les réseaux sociaux, les médias et les actions de révolte. Par exemple, le premier lanceur d'alerte français s'appelait Henri Pézéra avec l'affaire de l'amiante en 1970. Son rôle a été de faire interdire cette substance toxique en 1997. Il a découvert ce problème lorsqu'il travaillait à l'université de Jussieu à Paris par un défaut de fibre blanche qui tombait du plafond. Grâce à son engagement, des milliers d'ouvriers français ont été reconnus victimes de maladies professionnelles. Intéressons-nous maintenant à une autre figure emblématique, Chelsea Manning, une analyste de l'armée américaine. En 2010, elle transmet à Wikileaks des documents dévoilant la mort de civils pendant la guerre d'Afghanistan. Elle a également transmis certaines bavures de l'armée américaine pendant la guerre d'Irak. Wikileaks est une ONG fondée en 2006 par Julian Assange. Le but est de publier des documents confidentiels et d'être le plus transparent possible avec les internautes. Pour en revenir à Chelsea, son acte de dénonciation lui coûtera cher. Une condamnation à 35 ans de prison pour trahison. Heureusement, elle sera commuée grâce au président américain Barack Obama 7 ans après son arrestation.
Suite à l'essor de ces mouvements, depuis 1998, plusieurs lois et organisations ont été créées pour protéger les lanceurs d'alerte. La première loi française date de 2007, suivie d'une loi plus large en 2013. La loi Sapin 2 de 2016 reconnaît pleinement le lanceur d'alerte, le définit comme une personne physique qui révèle ou signale de manière désintéressée et de bonne foi. Elle définit aussi la procédure précise à suivre. Cependant, les lanceurs d'alerte peuvent seulement dénoncer une personne physique, mais pas les personnes morales, comme par exemple les associations ou les ONG. Tournant 2018, le Parlement européen adopte de nouvelles règles qui assurent une haute protection des lanceurs d'alerte, comme par exemple les journalistes, ce qui n'est pas toujours le cas, notamment pour des pays avec un régime autoritaire. Dans ce contexte, comme l'a dit Lilou, ils risquent la prison, l'exil, voire la mort. Toujours en 2018 en France, la Maison des lanceurs d'alerte a été créée. Elle regroupe plus de 30 organisations engagées à défendre et aider les lanceurs d'alerte. La dernière loi en date en France date du 21 mars 2022. Elle améliore la protection, la confidentialité et la définition des lanceurs d'alerte. Souvent, les lanceurs d'alerte sont vus comme des héros pour la société, mais ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, en Russie, en 1962, Alexandre Solenjis, écrivain russe, décrit les camps de travail en URSS. Par la suite, il s'est vu arrêté, déchu de sa nationalité soviétique et expulsé du pays, vu comme un traître.
Mais donc, sont-ils forcément positifs et utiles à la société ?
Alors oui, dans la grande majorité des cas, ils aident à un développement amélioratif de la société. Mais, pour certains, ils peuvent paraître comme contre-productifs, comme par exemple pour le groupe militant Just Stop Oil, qui lutte contre le dérèglement climatique et l'exploitation des ressources fossiles. On a l'habitude, comme avec la WWF, d'actions coup de poing, mais Just Stop Oil réalise fréquemment des actions dégradantes, comme le jeter de peinture et de nourriture sur des tableaux célèbres, comme la Joconde et les tournesols. Ces actions peuvent donc décrédibiliser leur cause et l'image qu'on leur porte.
Aujourd'hui, l'alerte est un enjeu politique mondial. Malgré les quelques lois de protection, les lanceurs d'alerte risquent gros. Licenciements, poursuites judiciaires, menaces, voire prison. La loi protège parfois sur le papier, mais pas toujours dans les faits. Grâce à Internet, nous pouvons bénéficier gratuitement de ces informations, mais attention aux faces cachées qui sont dangereuses. La surveillance numérique est partout. De plus, le regard du public est partagé. Certains voient les lanceurs d'alerte comme des héros, d'autres comme des traîtres, bien que les sujets abordés soient fondamentaux. Seule une démocratie en bonne santé peut permettre d'écouter les lanceurs d'alerte sans les écraser.
Objet de travail conclusif, l'information à l'heure d'Internet. Jalon 3, les théories du complot, comment trouvent-elles une nouvelle jeunesse sur Internet ? Présenté par Shadia, Taya et Valentine.
Une théorie du complot, c'est quand des personnes pensent que des actions sont menées par d'autres en secret dans le but de nuire ou d'obtenir quelque chose. Elles se caractérisent par une méfiance généralisée envers les institutions, une interprétation spéculative des événements et un narratif séduisant qui attire sans quête de réponses simples face à des situations complexes. Dans un monde de plus en plus connecté, les raisons qui poussent les individus à adhérer à ces récits sont nombreuses, comme par exemple la peur, l'incertitude ou encore l'influence sociale renforcée par les réseaux sociaux. Cependant, ces théories ont des impacts préoccupants, tant sur le plan individuel, en alimentant l'isolement ou des décisions risquées, comme par exemple le refus des vaccins pendant le Covid-19, et aussi sociétal, en érodant la confiance dans les institutions et en nuisant à la santé publique. Face à ce défi, le développement d'une pensée critique et d'une vérification rigoureuse des faits apparaît comme une nécessité pour éviter les pièges de la désinformation. Pour cela, nous répondrons à la problématique « Comment les théories du complot influencent-elles la confiance du public envers les médias et remettent-elles en question leur rôle dans la diffusion de l'info fiable ?»
Dans un premier temps, on sait que Internet a un accès très facile, instantané, à des sources susceptibles de diffuser des fausses informations parlant de sujets tels que le complotisme. Internet peut donc être un accélérateur de la diffusion du complotisme. En effet, en raison des réseaux et de diverses plateformes, la propagation des fausses informations se fait massivement et à l'échelle mondiale. Des algorithmes favorisent les contenus sensationnalistes ou émotionnels, souvent caractéristiques des discours complotistes. Cette diffusion virale rend difficile la distinction du vrai et du faux, d'autant plus pour les personnes peu informées ou critiques face aux sources telles que les personnes âgées. De plus, cette diffusion conduit à l'affaiblissement de la confiance dans les institutions. Les théories complotistes remettent en cause la crédibilité des gouvernements, des scientifiques, des médias, des institutions publiques. Cela peut provoquer une crise de confiance généralisée, rendant les citoyens méfiants, hostiles envers les informations officielles. En période de crise, par exemple, une pandémie, une élection telle que la crise du Covid-19, cette défiance peut entraver la gestion collective et affaiblir la démocratie. Enfin, la diffusion du complotisme peut entraîner la radicalisation et la mise en danger de la société. Le complotisme en ligne crée des communautés formées où des membres s'isolent de la réalité et se forcent mutuellement dans leurs croyances. Cela peut conduire à la radicalisation idéologique qui mène à des actes violents et à des attaques contre les institutions publiques. C'est donc une menace pour la cohésion sociale et la sécurité publique.
Pour éclairer ces propos, on s'intéresse à un sujet d'actualité toujours brûlant. Les théories du complot et plus particulièrement celles autour des attentats du 11 septembre 2001.
Ouvrons ce journal par de toutes nouvelles images vidéo amateurs de l'attaque terroriste contre le symbole de la puissance économique des États-Unis d'Amérique, Stéphanie Perez.
8h56, une banale intervention dans les rues de New York. Quand soudain, un grondement sourd. Ce pompier y prête à peine attention et pourtant... L'impensable vient d'arriver. Un avion transformé en bombe volante vient de fondre sur la première tour du World Trade Center.
Vous avez peut-être déjà entendu cette idée. Et si le gouvernement américain avait lui-même organisé ces attentats? Eh bien, c'est l'une des théories les plus répandues. Selon ses partisans, les attaques auraient été prétextées pour déclencher les guerres en Afghanistan et en Irak et ainsi servir pour des intérêts géopolitiques. Ils avancent plusieurs arguments. L'effondrement des tours jumelles est jugé trop parfait. La mystérieuse chute de la tour numéro 7, qui rappelons-le n'a pas été touchée par les avions, ou encore l'absence de réaction de la défense aérienne américaine ce jour-là. Tout cela, pour eux, serait bien trop étrange pour être le fruit du hasard. Mais attention, ces théories ont été largement réfutées par des enquêtes sérieuses, notamment celle de la commission officielle du 11 septembre. Pourtant, elles continuent de circuler. Pourquoi ? Parce qu'elles s'appuient sur un vrai climat de méfiance envers les institutions et les médias. Des groupes comme 9-11 Truth ou Architect Engineer for 9-11 Truth réclament encore aujourd'hui une nouvelle enquête. Des figures médiatiques comme Alex Jones, sur son site Infowar, ont largement diffusé ces idées. Le contexte géopolitique a aussi nourri ces doutes. Souvenez-vous, en 2003, les États-Unis ont envahi l'Irak en affirmant que le pays possédait des armes de destruction massive qui n'ont jamais été trouvées. De quoi renforcer l'idée d'une manipulation à grande échelle. Mais ce phénomène va bien plus loin. Il relève un changement profond dans notre manière de nous informer. De plus en plus de gens se détournent des médias classiques pour se tourner vers des blogs, des vidéos sur YouTube ou des forums, parfois sans filtre ni vérification. Les réseaux sociaux, eux, sont devenus de vrais amplificateurs de complots. La frontière entre opinion et fait devient floue et il devient difficile de distinguer le vrai du faux. Alors que faire ? Eh bien, des solutions existent. Des médias proposent aujourd'hui des outils de fact-checking, comme les décodeurs AFP factuels. À l'école, on apprend aussi à décrypter l'info grâce à l'éducation aux médias. Et les grandes plateformes ont commencé à modérer leur contenu trompeur, voire à afficher des avertissements. Et puis, il y a aussi des règles plus strictes au niveau européen pour lutter contre la désinformation en ligne et les manipulations, comme les deepfakes. En conclusion, le complot du 11 septembre, même infondé, montre à quel point il est vital aujourd'hui de garder un regard critique sur nos sources d'informations et surtout de ne jamais cesser de s'interroger et de vérifier, ainsi que de croiser les informations,
Ça, c'est l'esprit critique. On espère que cette émission vous a apporté de nouvelles connaissances en matière d'information et nous vous encourageons à rester critiques.
Merci aux élèves de première SP AGGSP pour la réalisation de cette émission et merci à vous, chers auditeurs.
Cham AGGSP. Se forger un avis critique.
Avoir une réflexion.
Grandir et évoluer avec ses connaissances.
Connaître le monde.
Rester curieux.
L'art du débat.
Avec Cham AGGSP.